Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Damien Leguet.
Nous voudrions aujourd'hui nous intéresser à Maurice Blondel, 1861-1949, philosophe français qui est un peu oublié et auteur avant tout d'un livre qui s'appelle « L'action ». D'une certaine façon, on peut dire que Maurice Blondel n'a jamais été vraiment reconnu de son vivant. Il était trop chrétien pour les universitaires et trop rationnel, d'une certaine façon, pour les catholiques. Et donc, il a souffert de cette double suspicion. Lui qui cherchait à appréhender le réel d'une manière plus symphonique que certains, et alors même que certains catholiques étaient aussi dans cette idée de la séparation. Et quand la pensée catholique, au début du XXe siècle, était bloquée d'une certaine manière sur une pensée scolastique, néo-scolastique, beaucoup de ceux qui préparaient un renouveau de la pensée catholique, je pense en particulier au père de Lubac, s'inspirait de Blondel. Il y a donc un effet second, une postérité de Blondel auprès de la pensée catholique qu'il importe de mieux comprendre. On peut dire qu'il y a deux importances ou deux postérités de Blondel. D'une part, il est un penseur qui cherche à réconcilier tous les éléments de la compréhension du réel, la science, la philosophie, la métaphysique, et donc en revenir à une conception plus complexe, plus large, plus symphonique. Et deuxièmement, donc, deuxième importance, beaucoup de théologiens, donc, comme je le disais, se sont inspirés ou ont lu Blondel et en ont tiré les éléments d'un renouveau catholique. Il nous importe donc aujourd'hui de mieux comprendre Blondel, de mieux le resituer dans son époque, de mieux voir en quoi il est philosophe, philosophe et catholique, catholique et philosophe. Et donc, nous avons la chance et le privilège de recevoir Bertrand de Saint-Sernin. Monsieur Saint-Sernin, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Donc, vous venez de faire paraître un livre qui s'appelle Blondel, chez Vrin, éditeur. Vous êtes professeur émérite à Paris-Sorbonne, membre de l'Institut, l'Académie des sciences morales et politiques, et avant tout, si je puis dire, spécialiste de philosophie des sciences. Vous avez écrit en 1973 « Mathématiques de la décision », un livre sur Whitehead. Et donc, ceux qui vous ont lu plutôt de ce côté-là de la philosophie. Donc, première question, pourquoi est-ce que vous vous êtes intéressé à Blondel et en quoi est-ce que Blondel a pu susciter votre intérêt de philosophe des sciences ?
Bien, en philosophie des sciences, je me suis intéressé aux problèmes de décision et donc d'action. Et le livre que fit paraître Maurice Blondel en 1893, L'Action, constitue à mon sens un livre très important pour plusieurs raisons. D'abord parce que Blondel montre très bien que les plans les mieux préparés, les modélisations les plus précises sont ou peuvent être très importantes, mais que dans l'action intervient un élément d'une autre nature, qu'il résume d'un mot en disant « agir, c'est se confier à l'univers », c'est-à-dire c'est dépasser la clôture des plans les plus exacts et les mieux préparés.
Alors, est-ce que vous pouvez, pour nos auditeurs, rapidement nous donner un peu une idée de la biographie donc, de Blondel pour resituer un peu Blondel dans son époque?
Alors, Blondel est né en 1861, dans une famille traditionnelle et fortunée de Bourgogne. Lui-même se décrit comme un enfant plutôt timide, plutôt réservé. C'est en même temps un garçon extrêmement doué. Sa famille veut qu'il devienne polytechnicien. Lui-même se demande s'il ne sera pas tenté par la prêtrise. Et en fait, alors qu'il s'inscrit à la faculté de droit, il entend parler de l'école normale supérieure. Il s'y présente, il est reçu du premier coup. Et donc, il va découvrir très tôt sa vocation de philosophe. Il faut savoir qu'à l'époque, la philosophie implique en même temps une formation ou une culture scientifique et que tous les agrégés de philosophie de l'époque ont un baccalauréat de mathématiques, ce qui est le cas de Blondel. Il faut y ajouter, dans le cas de Maurice Blondel, qu'il est lié à l'un de ses cousins germains qui va avoir une existence tout à fait extraordinaire. C'est un jeune polytechnicien qui va sortir dans le corps des ponts, qui va mener une vie de voyageur jusqu'à 25 ans et qui, de 25 à 50 ans, va rester chez lui. Et en 1945, lorsque Louis de Broglie préside la séance de réouverture de l'Académie des sciences après la guerre, il va choisir le cas d'André Blondel comme celui d'un expérimentateur qui a fait des découvertes très importantes dans le domaine des phares et balises en restant chez lui, sans jamais aller dans un laboratoire et en travaillant uniquement avec de jeunes ingénieurs qui venaient lui rendre compte des expériences. Et Blondel, à travers ce cousin, à travers aussi l'amitié qu'il a eue pour Pierre Duhaime, son contemporain, à travers les enseignements qui seront donnés par le directeur de l'école normale supérieure de l'époque, Georges Perrault, en biologie, par Dastre, qui avait été un préparateur de Pasteur et qui aura la chaire de physiologie de la Sorbonne, c'est quelqu'un qui s'est intéressé aux sciences. Alors, il passe l'agrégation de philosophie en 1886, il enseigne en lycée. En 1889, il prend un congé pour achever sa thèse, qu'il soutient en 1893. C'est l'époque où on doit soutenir deux thèses, une thèse française, l'action, et une thèse latine qui porte sur Leibniz, sur le vinculum substantiale de Leibniz, c'est-à-dire sur le lien qui relie entre elles les substances composées. Alors, cette seconde thèse aura, nous le verrons, une importance considérable dans la vie philosophique de Blondel. Alors, en 1993, c'était l'usage à l'époque, il est reçu par le directeur des enseignements supérieurs qui lui dit « Écoutez, je ne peux pas vous confier un enseignement à l'université parce que votre philosophie semble admettre qu'il y a au-dessus de la raison humaine peut-être une réalité d'un ordre supérieur et ça n'est pas tout à fait compatible avec l'enseignement de la philosophie. » Alors cet oukase l'affecte, mais il sera levé dès l'année suivante par le ministre de l'époque, enfin en 1894, qui est Poincaré, ministre de l'instruction publique et des cultes, et qui est, je crois, un parent de son directeur de thèse, Émile Boutroux. Et Blondel va avoir une carrière universitaire. Les difficultés avec l'université vont d'ailleurs se calmer assez rapidement. Il sera reconnu comme un philosophe important, comme quelqu'un d'une honnêteté scrupuleuse intellectuellement, et il deviendra membre de l'Institut en 1914, avec la particularité que les provinciaux ne sont pas membres titulaires, mais sont membres correspondants. Mais il travaillera de très près au vocabulaire philosophique de la langue, ce sera un membre actif de la Société française de philosophie, il participera à des congrès internationaux de philosophie, c'est donc un homme de cabinet, mais ce n'est pas un homme renfermé, c'est quelqu'un qui participe à la vie sociale et à la vie qui a des intérêts à la fois scientifiques et politiques, comme il le montrera d'ailleurs dans les années 30 et par la prise de position très ferme qu'il prendra à l'égard du national-socialisme dans un livre peu connu mais à mon avis important, qui s'appelle « Lutte pour la civilisation et philosophie de la paix ».
On y reviendra. Donc en 1896, il enseigne, donc il commence son enseignement à Aix-en-Provence et il y restera
toute sa vie,
voilà.
Jusqu'à sa retraite.
Et est-ce qu'on peut considérer que c'est un peu un exil
Il n'a pas eu normalement le cursus auquel il aurait pu aspirer, aurait été de devenir un jour peut-être professeur à la Sorbonne, mais c'est également le cas d'un autre grand esprit l'esprit qui est un de ses amis, qui est le cas de Pierre Duhem, qui restera à Bordeaux jusqu'à sa mort.
Et comment est-ce que vous comprenez, donc vous dites effectivement que ces difficultés avec l'université n'étaient pas aussi fortes que ce que l'on peut imaginer, mais qu'est-ce que vous pourriez dire quant à la compréhension qu'il avait ou au travail enfin, qui pouvait s'effectuer avec les autres philosophes de son époque. Donc vous dites qu'il a beaucoup fait de choses, voilà, qu'il a beaucoup travaillé avec d'autres philosophes de son époque. Est-ce qu'il était marginalisé? Est-ce qu'il était mis de côté pour des raisons liées à ses engagements catholiques
ou... je ne le crois pas.
Non.
Il a participé très activement à la Société française de philosophie. Il a participé activement à plusieurs congrès internationaux de philosophie. D'autre part, évidemment, il y a une singularité de Blondel. Blondel est darwinien et il admire l'œuvre de Darwin. Il se sent beaucoup plus éloigné de Lamarck, qui est plus un homme du XVIIIe siècle, qui est un esprit qui a apparemment, du moins dans son œuvre scientifique, moins d'inquiétude religieuse que Darwin, qui lui-même appartient à une famille finalement très croyante au départ, et sa femme restera quelqu'un de très pieux. Alors, Blondel fait partie de ce petit groupe de philosophes français, parmi lesquels se trouvent des gens très connus comme Lachelier, mais aussi Bergson, mais aussi des gens comme l'abbé Breuil, comme des gens qu'on connaît moins, mais comme le comte Bégouin et ses fils, qui ont été de grands paléontologues, qui savent que l'œuvre de Darwin est importante et qui joueront d'ailleurs un rôle très important vis-à-vis du Vatican, en évitant qu'il y ait une condamnation de la théorie de l'évolution par l'Église catholique, ce qui évitera un certain nombre de problèmes actuels liés au créationnisme, à l'intelligent design, etc., que certaines parties du protestantisme connaissent.
Il semble, vous me reprenez si je me trompe, mais il semble s'opposer à la philosophie, disons, dominante de l'époque, qui est plutôt héritière de la philosophie des Lumières, donc l'idée de l'autonomie de la raison, lui milite plutôt pour découvrir l'insuffisance de la raison. Il cherche dans son œuvre ce désir d'infini qui habite l'homme et donc cherche à faire une forme de généalogie de ce désir d'infini avec des arguments rationnels. Alors, est-ce que cette, pour le dire très rapidement, est-ce que cette philosophie qui est la sienne, ce souci de dépasser d'une certaine façon l'autonomie de la raison au profit d'autre chose, est-ce que cette posture qui est la sienne est minoritaire à l'époque et est-ce qu'elle s'oppose massivement à la philosophie dominante ?
La thèse de Blondel est une thèse éminemment classique en philosophie. Prenez le mythe de la caverne, Platon dit qu'il y a une ouverture dans la caverne. Alors, il y a un mot aussi tout à fait étonnant de Simone Veil, disant du Timée de Platon, c'est un livre qui a été écrit par quelqu'un qui est sorti de la caverne et qui y est retourné. Autrement dit, Blondel n'est pas du tout quelqu'un qui donne à la raison un rôle mineur. Elle lui paraît très importante et bien plus, il estime que la science moderne, qui naît au XVIIe siècle, est au fond un fruit du christianisme et de la philosophie grecque, mais aussi du christianisme dans la mesure où il attache beaucoup d'importance à ce passage du livre de la Genèse où il est dit que Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Il en tire la conclusion qu'il n'y a aucune raison d'imaginer que l'action de Dieu dans la nature doive rester complètement opaque. Et par conséquent, il pense qu'il n'y a rien d'allogique dans le monde et qu'il faut au contraire arriver à discerner une logique intégrale qui restituerait la diversité des liens qui relient les différentes parties constitutives de la nature, des êtres, et qui aille jusqu'à Dieu. C'est là où l'importance de Leibniz dans son œuvre est tout à fait considérable, c'est-à-dire l'idée du lien substantiel qui est à rechercher ou à découvrir entre les choses. En même temps, Blondel est un homme de son époque, c'est-à-dire que, du point de vue scientifique, c'est un positiviste. En ce sens qu'il croit que la science peut découvrir les lois de la nature, mais il ne la croit pas capable de constituer ou de restituer les processus causaux qui constituent, si vous voulez, la vie de la nature et son évolution. Et c'est là où il nous apparaît comme singulier, peut-être un peu, comment dirais-je, séparé de nous. Il pense que la phénoménologie doit s'appuyer sur la science, qu'il ne peut pas y avoir une description exacte des phénomènes naturels en dehors de la science, mais il estime que la tâche, la mission de la philosophie, c'est de ne pas considérer la nature sous la forme mutilée que la science moderne, pour des raisons de constitution, a pris en compte. C'est-à-dire que, si vous voulez, quand vous prenez le Saggiatore de Galilée, Galilée dit qu'il faut distinguer entre les qualités premières et les qualités secondes. Alors l'idée de Blondel, c'est que le philosophe doit retrouver la nature dans son intégralité, c'est-à-dire pas simplement les qualités des objets naturels que les sciences diverses ont retenus, mais si possible de réintégrer dans la philosophie la totalité des caractéristiques des êtres naturels. Alors il dit, scientifiquement, ça n'est pas possible, du moins à mon époque, et peut-être ça ne le sera jamais. Mais il y a une voie pour y parvenir qui est la voie de l'action. D'où l'importance, si vous voulez, pour passer de la phénoménologie à ce qu'il appelle une ontologie concrète, le rôle très important de l'action. Elle est importante doublement du côté du sujet, parce que lorsqu'on agit, on ne peut pas, comment dirais-je, se diviser en soi-même. Platon a eu l'image dans le Laques, qui est un des petits dialogues, il dit que c'est au fond comme de descendre dans un puits ou comme sauter d'un plongeoir sans savoir comment on pourra s'en sortir. Et donc il y a dans l'action quelque chose qui échappe au projet, d'où d'ailleurs la critique qu'il fait de Descartes, qui dans une lettre du 28 janvier, je crois, 1641 à Mersenne, avait dit que entre l'action que nous projetons et l'action que nous réalisons, il n'y a pas de fossé. Blondel est persuadé du contraire, et il en est persuadé très jeune. Et donc, ce qui explique d'ailleurs aussi une lacune en un sens de son œuvre, c'est-à-dire qu'il s'est peu intéressé aux grands travaux des mathématiciens français du XVIIIe et du XIXe siècle concernant la modélisation de l'action.
Est-ce qu'on peut considérer, et puis après on en viendra dans une deuxième partie, sur les engagements, effectivement, vous avez fait allusion à ce texte de 1940, est-ce qu'on peut considérer que Blondel a une postérité philosophique forte ou particulièrement évanescente?
Vous savez, il y a dans la philosophie, et ça a toujours été la même chose, des gens qui ont quelquefois une grande importance et qui sont peu cités. Un cas très intéressant au XIXe siècle, c'est le cas d'Augustin Cournot. Cournot a été lu par tout le monde. Il a fait l'objet de thèses assez rares. Et en même temps, c'est quelqu'un qui a marqué son époque, qui a fait des découvertes très importantes en économie, en théorie des jeux, qui a, par opposition à son grand contemporain qui est Auguste Comte, lui est persuadé que l'esprit humain est capable de reconstituer au moins localement et partiellement certains processus naturels, et il s'appuie sur des découvertes très importantes de son époque, c'est-à-dire la constitution de la chimie de synthèse, c'est-à-dire la possibilité que nous avons d'introduire dans la nature, de reconstituer synthétiquement des substances qui existent, mais d'en introduire de nouvelles dans la nature. Et vous savez que le catalogue des substances chimiques de synthèse compte actuellement à peu près 20 millions d'éléments.
Et donc, vous dites que Blondel fait partie de cette lignée-là des auteurs importants mais non cités.
Moi, je crois que c'est un philosophe important non cité.
Et là, vous le verriez donc dans la philosophie, donc non pas dans la pensée théologique ou dans la pensée chrétienne, mais dans la philosophie, vous verriez ses descendances ou vous verriez ses influences auprès de quel philosophe en particulier ?
Écoutez, je crois qu'il a une importance actuelle particulière dans la mesure où Blondel a réfléchi au lien entre la raison et la foi, la science et la religion. Et alors, il est vrai qu'il l'a fait dans un contexte chrétien. On peut dire qu'il s'est intéressé plus particulièrement, je ne dirais pas presque exclusivement, au catholicisme. Même s'il a eu des élèves musulmans, même s'il a été très impressionné par l'œuvre de Newman, etc. Mais je crois qu'une des leçons, c'est quelqu'un qui est croyant, mais qui est extraordinairement scrupuleux. Il se dit qu'il faut éviter d'importer dans la philosophie des thèmes qui sont simplement des croyances ou des idéologies. Il y a donc chez lui une sorte de scrupule qui le fait repartir à chaque fois à zéro. Il y a un deuxième point sur lequel il me semble très important, c'est que Blondel est contemporain de la découverte que l'univers dans lequel nous vivons n'est pas un univers statique, que c'est un univers en expansion, et il a été frappé par les travaux de l'abbé Lemaître, qui en 1925 a pu montrer que les équations de la relativité générale d'Einstein avaient des solutions non statiques. Alors, Lemaître en Belgique et un Russe qui s'appelait Alexandre Friedman réussissent au même moment à montrer que la relativité générale n'est pas compatible seulement, comme le pensait initialement Einstein, avec un univers, je dirais, de type un peu spinoziste, un univers éternel mais stable, mais que c'était compatible avec un univers en évolution. Et Blondel est persuadé que cette idée d'évolution touche non seulement l'univers matériel, touche non seulement le monde physico-chimique, mais également le monde biologique et le monde spirituel. Il va jusqu'à dire que ce mouvement de la création et ce mouvement du devenir inclut le divin lui-même. Il n'a pas une représentation statique de Dieu. Enfin, il y a un troisième point qui est intéressant. À l'époque où on découvre des exoplanètes, Blondel en parle et dit que ça lui paraît tout à fait vraisemblable qu'il y ait dans des planètes différentes de la nôtre des êtres qu'il appelle spirituels, c'est-à-dire des êtres doués de raison, qui puissent avoir une constitution physique tout à fait différente de la nôtre et qu'il n'y aurait aucune raison de les exclure de ce qu'il appelle la communion des saints, c'est-à-dire cette interaction universelle de tous les êtres, mais dans laquelle interaction à laquelle participe l'univers matériel et l'univers vivant. Blondel prend au sérieux l'idée d'incarnation. Autrement dit, ce n'est pas quelqu'un qui disjoint le domaine de l'âme et le domaine du corps. Il est à cet égard, effectivement, un philosophe catholique qui prend au sérieux l'incarnation.
Nous allons observer une petite page musicale et nous reprenons donc juste après notre entretien. Entretien avec Bertrand Saint-Cernin autour de son livre, donc Blondel. Nous avons dans une première partie essayé de brosser un peu rapidement, excusez-moi, mais le temps nous est toujours compté, un peu la vie et puis un peu l'œuvre pour mieux cerner l'importance de Blondel. je voudrais insister sur un point particulier, parce que vous avez un chapitre dans votre livre là-dessus, et qui est assez méconnu, relatif à l'engagement politique de Blondel. Donc Blondel, lui, croit à cette responsabilité historique du penseur, et en 1940, à 79 ans, il publie donc « Lutte pour la civilisation et philosophie de la paix », où il analyse, et vous le montrez de façon tout à fait pertinente, où il analyse le racisme, le totalitarisme, où il critique le national-socialisme et considère que ce national-socialisme est un contre-évangile. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette position politique de Blondel, et en quoi est-ce que ces analyses politiques de l'époque contre le racisme, le totalitarisme et donc le national-socialisme a eu, en quoi est-ce que ces positions-là ont eu une influence ou pas d'influence, enfin 1940, au moment effectivement où les choses vont basculer?
Alors Blondel n'est pas seul de son espèce. Il y a des analystes qui voient très bien le réarmement de l'Allemagne, qui sont au courant des liens entre l'Allemagne et l'Union soviétique sur le plan militaire, etc. Alors, une des sources, ou la source principale d'information de Maurice Blondel, c'est une revue, oubliée aujourd'hui, mais qui a été très importante et très remarquable, qui est la revue politique, qui, entre 1927 et 1940, va donner 147 livraisons mensuelles d'une revue qui analyse à la fois la vie politique française, mais aussi la vie politique internationale, la montée du fascisme italien, le développement du national-socialisme en Allemagne, qui évoque la condamnation du nazisme par les évêques allemands en 1931, la tentative pour créer un protestantisme national-socialiste. Et c'est d'ailleurs très curieux, j'ai trouvé dans cette revue un article d'un grand philosophe français des sciences qui sera fusillé en 1944 à Arras, Cavaillès, qui justement a analysé cette tentative qui a heureusement fait long feu, parce que les grands théologiens protestants de l'époque ont ramené quand même les choses à leur juste dimension. Alors, l'originalité de Blondel, c'est de considérer que quand on lit Mein Kampf, on peut faire beaucoup de reproches à Hitler, mais certainement pas l'accuser de manquer de logique et de sincérité. Autrement dit, Blondel pense que le national-socialisme, c'est d'abord une doctrine. Et c'est une doctrine qui consiste à dire que tout repose sur des relations de force. Et Hitler, qu'il cite d'ailleurs dans « Lutte pour la civilisation et philosophie de la paix », dit qu'il n'y a aucune raison que l'humanité échappe à cette loi générale de l'univers qui est que tout repose sur des relations de force. Alors, il s'y mêle en même temps, Blondel caractérise le national-socialisme comme un illuminisme, c'est-à-dire comme une conception reposant sur une sorte de mythologie qui ne résiste absolument pas à une analyse rationnelle un peu sérieuse, qu'il s'agisse de la pureté de la race, qu'il s'agisse, si vous voulez, de l'idée que tout repose sur des rapports de force, etc. Il y a donc à la fois chez Blondel l'idée que si on pense que tout est soumis à la force, alors il n'y a plus ni vérité scientifique, ni moralité, ni vie politique démocratique. C'est d'ailleurs une idée que l'on retrouvera dans un livre alors qui est beaucoup plus connu, qui est L'enracinement de Simone Veil, qui dit juste au milieu du livre qu'il n'y a qu'un choix à faire, qui est de croire que tout est soumis à la force ou de croire qu'il y a au-delà de la force quelque chose qui s'impose comme une réalité d'une autre nature. Alors, cela explique, si vous voulez, quelque chose qui a été mal compris à la fin du XIXe siècle dans l'œuvre de Blondel, c'est que lui ne croit pas que les hommes livrés à eux-mêmes puissent édifier une société parfaitement juste. Il pense qu'il est nécessaire qu'il y ait une instance transcendante. Ce qui est d'ailleurs très curieux, c'est que Sartre, à la fin de la critique de la raison dialectique, page 560 si ma mémoire est bonne, dit que le premier stade de la société qui se construit en Union soviétique comporte un mélange de bureaucratie, de despotisme et de culte de la personnalité. Autrement dit, il semble bien que ce problème, je ne dis pas quelle est la bonne solution, mais que ce problème de savoir si l'humanité à elle seule est capable de rétablir un équilibre et une justice et puisse accomplir la plénitude de sa destinée, c'est une question que Blondel a considérée comme importante, non seulement théologiquement, mais politiquement.
Mais est-ce qu'il y a beaucoup de philosophes de son envergure ou de sa génération qui se sont engagés à ce point, donc avant la guerre ou juste avant la guerre en l'occurrence, pour dénoncer le nazisme d'une part, et deuxièmement, quelle a été la répercussion enfin, de ce livre qui très explicitement, sans circonlocution particulière, condamne à la fois le national-socialisme, le racisme, etc.
Vous savez, il paraît en mars 40.
Oui.
Et si l'on revient à la revue politique, un des derniers numéros de la revue paraît au printemps 40 et évoque quelque chose qui est resté à l'ordre du projet. C'était l'idée de faire un conseil suprême franco-anglais, de considérer qu'il n'y aurait plus qu'une seule nation et que les deux pays se battraient ensemble contre le nazisme et contre une Allemagne qui était à ce moment-là agressive et qui avait déjà envahi la Pologne, que nous avions laissé, il faut dire, tomber.
Mmh. Est-ce que ça veut dire que préalablement à cette époque-là, donc 1940, est-ce que Blondel s'était déjà, par article interposé, engagé politiquement dans les différents moments enfin, historiques que nous avons connus?
Je ne pense pas qu'il faille considérer cela comme un engagement politique. Blondel, si vous voulez, estime qu'il reste dans son métier de philosophe en analysant un mouvement qui est en train de prendre une importance politique pour l'ensemble. Il a d'ailleurs une image extraordinaire où il dit que l'ensemble du monde va prendre la forme d'une croix gammée qui ira du pôle Nord au sud de l'Afrique et qui s'étendra d'est en ouest, couvrant les continents. Vous voyez, il a donc une sorte de vision qui n'est pas chez lui du tout une forme de prophétisme, mais qu'il définit comme une analyse des textes. Et lui-même pense que ça mènera d'une part à l'assassinat d'individus jugés malsains, comme ça a été le cas du meurtre d'un nombre important de malades mentaux en Allemagne à ce moment-là, et il dit de populations entières.
Mmh. Mais derrière cela, et là vous le montrez bien dans le chapitre que vous consacrez à ce livre, derrière cela il y a une vraie philosophie de l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a chez lui l'idée qu'il y a derrière les drames de l'histoire des sources métaphysique, de la pensée, et que donc le travail du philosophe est justement de faire cette connexion, cette forme de génétique, cette génétique historique, pour relier l'histoire avec ses sources métaphysiques, ses pensées diffuses. Est-ce que cela a eu aussi, correspond pleinement à cette pensée blondelienne ?
Je crois que vous la décrivez très exactement. L'idée de Blondel, c'est que la méthode de la philosophie est une méthode génétique. Il faut. Alors, il y a cela des raisons qu'il trouve, qu'il puise au fond dans l'anthropologie chrétienne, c'est-à-dire dans l'idée de l'incarnation et l'idée qu'il y a une solidarité totale entre les pensées les plus hautes et même l'action de la grâce, et puis la vie animale et la vie physico-chimique, et l'existence physico-chimique. Blondel aurait certainement été tout à fait passionné par la neurophysiologie, si elle avait existé à son époque. Ce n'est pas du tout quelqu'un qui croit à une sorte de dualisme entre le corps et l'esprit. Il n'y croit pas. Il va même si loin qu'il dit que s'il doit y avoir une vie au-delà de la mort, on ne peut pas imaginer que ce soit une sorte de vie des âmes séparées. C'est une chose qui lui est totalement étrangère, comme elle est étrangère, d'ailleurs, il faut bien le dire, au dernier Platon. Car quand on lit les lois, ou quand on lit le Timée, on a ce sentiment, dans les lois, c'est parfaitement clair, dans le 12e livre des lois, lorsque Platon définit ce qu'il appelle la connaissance parfaite, il dit que c'est l'union de l'intelligence et de la perception qui se fondent au point de ne faire plus qu'un. Ça se trouve en 961D dans les lois. Et on retrouve la même idée dans le Timée, dans la partie médicale du Timée. Donc il y a chez Blondel cette idée. Et alors ça donne une lenteur, effectivement, à ses œuvres et une difficulté pour le lecteur, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il se sent obligé de prendre une gestation. Et alors, ce qui lui paraît spécifique de la philosophie, c'est d'indiquer en quoi une position est limitée. Alors, il le fait pour le national-socialisme, mais il le fait pour des doctrines comme l'atomisme grec. Il dira « l'atomisme a le mérite de faire apparaître que la réalité a une sorte de nature corpusculaire, mais la difficulté de l'atomisme, c'est qu'il a du mal à penser la notion de relation entre les atomes, d'où l'importance du vinculum substantiale, c'est-à-dire l'importance de sa thèse secondaire sur Leibniz, qui, paradoxalement, fera l'objet 40 ans plus tard d'une sorte de revisitation de l'œuvre de Leibniz en 1930, où il écrira de nouveau une réflexion sur le vinculum substantiale de Leibniz.
Je voudrais en venir sur un deuxième thème important de votre livre, Blondel et la science. Donc il dit clairement, et on revient dans votre champ de compétences complets qui est celui de la philosophie de la science, il dit donc que la science moderne est le produit du christianisme, enfin, ou plus particulièrement de sa sécularisation. Et il continue en disant que le christianisme, pour lui, a favorisé la naissance de la science moderne. Pourquoi ? Parce que Dieu agit rationnellement, donc s'il agit rationnellement, ça veut dire que l'univers est logique, et comme, et vous l'avez cité, comme l'homme est à l'image et à la ressemblance de Dieu, donc il est capable de percevoir les secrets de l'univers. Alors en quoi est-ce que cette thèse du christianisme qui a favorisé la naissance des sciences modernes vous semble être pertinente, d'une part, et deuxièmement, comment est-ce qu'elle a été reçue à son époque, à un moment où on était plutôt dans la séparation des plans plutôt que dans la réconciliation ?
Il faut d'abord rappeler que ce n'est pas une idée originale, propre à Blondel. Si vous prenez les pères cappadociens, c'est-à-dire au IVe siècle, des gens comme Basile de Césarée et Grégoire de Nyssa, qui sont tous les deux d'un milieu de grands médecins, vous avez cette préoccupation, comment relier la révélation chrétienne à la science de l'époque. Donc c'est un thème, je dirais, général dans la pensée chrétienne. Blondel est lui-même d'une génération, je le disais tout à l'heure, où le positivisme est très important. C'était le positivisme au sens de la théorie analytique de la chaleur de Fourier, c'est-à-dire de l'idée que les causes ultimes des phénomènes ne nous sont pas connues, ne peuvent pas être restituées par la science, mais que les lois mathématiques qui relient les phénomènes peuvent, dans certains cas, faire l'objet d'une science. Alors, le modèle, c'est la théorie analytique de la chaleur de Fourier, mais c'est également un thème qui est repris par Mach en 1883. C'est un thème qui est repris dans la théorie physique de Duhem en 1906. Et Blondel, pour l'essentiel, reste quand même lié à cette conception des choses. Conception selon laquelle la science peut converger vers l'approche, au fond, des phénomènes naturels, mais elle ne peut pas devenir une ontologie concrète, c'est-à-dire une sorte de restitution complète, causale, finale, des processus naturels. Alors, il le pense en ce qui concerne le monde physique, il le pense en ce qui concerne le monde biologique. Par exemple, il adhère à la thèse générale du transformisme, de l'évolution des espèces, mais en même temps, il a le sentiment que c'est encore une idée qui deviendra ou qui se lestera de plus en plus d'apport scientifique, mais qui n'est pas encore une théorie scientifique. Alors, sa singularité concernant la science, et qui nous étonne quand même maintenant, c'est qu'il pense qu'il y a un pont pour passer de la phénoménologie à l'ontologie, qui est l'action. C'est une idée qui n'a pas été très très bien comprise, il faut dire, et qui continue à susciter un certain nombre de réserves. Alors, l'idée de Blondel est une idée très simple, c'est que même si l'action et même les grandes actions ont toujours un périmètre d'influence limité, en même temps, elles ont une particularité, c'est que l'agent est obligé de se donner tout entier à ce qu'il fait. Et Blondel pense que par là, l'action représente une sorte de cheminement permettant de dépasser les limitations de la rationalité scientifique. Mais quand il dit limitation de la rationalité scientifique, pour lui, c'est en même temps une voie indispensable pour la philosophie. Il n'imagine pas une philosophie coupée des sciences. Ça lui paraîtrait absurde. Le philosophe de l'action est en même temps un philosophe pour qui toute prise scientifique sur la nature ou sur le monde social est quelque chose qui doit être pris en considération. Et on a, dans sa dernière œuvre, qui s'appelle « La philosophie et l'esprit chrétien », il y a une note sur Albert Lotman, qui est un des grands philosophes des mathématiques, qui, comme son ami Cavaillès, sera fusillé en 1944, il y a une note disant l'importance qu'il attache justement à la logique mathématique, même si finalement, par manque peut-être de professionnalisme et par l'idée que la logique doit dépasser ce qu'on appelle en bon français de la logique mathématique ou de la logique formelle, même si il n'a pas été, comme un de ses contemporains qui est un grand savant et aussi un grand métaphysicien, Whitehead, quelqu'un approchant d'aussi près, si vous voulez, la vie des sciences.
C'est-à-dire que dans l'action, vous m'en prenez si je me trompe, mais dans l'action, il y a à la fois une dynamique, une mobilisation de toutes les ressources, et donc toutes les distinctions préalables, d'une certaine façon, sautent, enfin, d'une certaine façon, sont supprimées au profit de cette action de l'individu qui mobilise toutes ses ressources en vue d'eux.
Ça n'est pas nécessairement l'action de l'individu. Il ne faut pas oublier que j'évoquais il y a un moment Grégoire de Nyssa. Grégoire de Nyssa dit que l'image de Dieu, si l'homme est l'image de Dieu, ce n'est pas l'individu, c'est l'humanité dans son ensemble. Et quand Blondel passe de la philosophie à la théologie, il évoque la communion des saints, c'est-à-dire le problème de l'interaction entre les êtres et entre les êtres et Dieu. Donc, l'action n'est jamais quelque chose de solitaire chez Blondel. L'action est toujours une interaction. Et alors, il adhère tout à fait à l'idée augustinienne. Quand on réfléchit à l'action, il ne faut pas oublier que le point de départ, c'est dans la philosophie antique et notamment dans le stoïcisme, l'idée que seul le sage arrive à la liberté. Et ce qui va caractériser le christianisme, c'est de dire que la liberté n'est pas l'apanage du sage, mais que c'est un caractère qui appartient à l'homme en tant qu'homme. Mais, et c'est un point très important chez saint Augustin, les passions elles-mêmes, et notamment la compassion, l'interaction au service de l'autre, va être le moyen privilégié pour que chaque individu puisse réaliser sa vocation propre, son officium, qui est toujours singulier. C'est un point sur lequel Blondel insiste. Il dit, aussi bien en ce monde-ci que dans l'autre, le mot de l'Apocalypse de Jean, je crois que c'est au chapitre 3, suivant lequel chacun a un nom propre qui n'est connu que de lui seul et de Dieu, vaut et vaudra toujours. Il n'y a pas d'absorption de l'individu dans une sorte de monde dans lequel tous les êtres se fondraient, si vous voulez. Mmh.
Alors, dites donc à nos auditeurs, donc, pourquoi faudrait, selon vous, lire Blondel aujourd'hui? Quelles sont les problématiques qui sont les siennes et qui peuvent être aussi les nôtres, d'une part? Et deuxièmement, quoi lire de Blondel pour rentrer au mieux dans son œuvre?
Alors, pourquoi lire Blondel? Tout d'abord, je crois parce que c'est un des meilleurs analystes de ce que l'on peut appeler l'anthropologie chrétienne. L'anthropologie chrétienne, ce n'est pas l'anthropologie des croyants. Il y a une phrase très amusante de Sartre à la fin de L'idiot de la famille, qui est sa grande analyse de Flaubert, où il définit lui-même sa pensée comme un athéisme chrétien. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire par là que c'est l'idée qu'il n'y a pas de séparation possible entre le domaine, je dirais, de la pensée ou de l'esprit et le domaine du corps, qu'on doit chercher à comprendre leur liaison. C'est d'ailleurs un problème extrêmement important du point de vue scientifique et du point de vue, par exemple, de la médecine, de la psychiatrie, de la compréhension des actes par lesquels nous pensons. Blondel est un homme pour qui l'idée que la pensée puisse être séparée du reste de la vie organique et de la vie psychique n'a aucun sens. Donc, il y a première idée qui est l'idée de l'importance de l'anthropologie moderne, contemporaine, dans sa complexité, dans son idée des interactions. La deuxième idée, je crois, c'est l'idée que les idéologies ont toujours un fond doctrinal et que c'est très important, en tout cas que c'est la tâche du philosophe, d'arriver à trouver la racine de ce qui va s'avérer sur la scène de l'histoire comme délétère, destructeur et mortifère. Le troisième point, c'est que l'approche du réel oblige à conjoindre la perception et la science, mais que nous devons éviter au maximum leur disjonction, leur séparation, et que c'est une tâche très difficile, mais à laquelle on doit s'employer. Et peut-être la quatrième raison, c'est que nous sommes dans des sociétés où il y a une diversité de religion, de culture, et c'est tout à fait précieux de disposer d'une œuvre d'un penseur scrupuleux pour qui il ne faut pas faire de tour de passe-passe et présenter des croyances religieuses comme des arguments philosophiques, mais où il faut justement arriver à comprendre où se trouve la couture, la séparation, quitte d'ailleurs, a remarqué que le domaine de la rationalité peut impliquer des inquiétudes ou la découverte de présence qui soit d'une certaine façon extérieure à l'individu ou, dans le cas de Blondel, comme dans le cas de Saint-Augustin dans le De Vera Religione, qui aboutissent à la découverte de ce que Saint-Augustin dans le De Vera Religione, de la vraie religion, appelle un inhabitator, c'est-à-dire un hôte.
Et là, quel est le livre donc par lequel il faudrait commencer, enfin, pour ne pas être à la fois submergé ou un peu éloigné de toutes les problématiques que vous avez indiquées?
Je crois que l'action de 93 reste quand même un livre majeur. Alors, c'est un livre très important du point de vue anthropologique, mais c'est un livre aussi, et c'est peut-être une des sources de la réticence qu'ont eu les juges au moment de la soutenance de la thèse. Xavier Tillette, le père Tillette, dit que la fin du livre représente une métaphysique de la charité. C'est-à-dire, non pas du care, comme on dit maintenant, mais de l'idée que la plénitude des liens entre les êtres suppose, si vous voulez, que l'individu ne s'attribue pas, en tant qu'individu, une valeur plus importante que celle qu'il attribue aux autres ou à l'humanité dans son ensemble. Et je crois que cette méditation sur la communion des saints, sur l'unité du genre humain, sur la fausseté de l'idée de race et plus encore de l'inégalité des races, est quelque chose qui constitue, du point de vue politique et social, une leçon importante.
Et quant à moi, je renvoie donc à votre livre qui est une belle introduction à Blondel, donc Bertrand Saint-Cernin, Blondel, chez Chevrin. Bertrand Saint-Cernin, merci d'être venu jusqu'à nous et donc je renvoie nos auditeurs à ce livre. Merci.